Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isa, bonsoir à tous et bienvenue dans un RTL Soir très sport. Aujourd'hui, tout d'abord, des gladiateurs à la une à Roland-Garros. Raphaël Nadal vise une 14e finale, match de titan en demi en ce moment face à l'Allemand Zverev. 7-6 pour Nadal dans la première manche, 5-5 dans la deuxième manche et déjà quasiment 3 heures de jeu. Et puis du foot, les Bleus contre le Danemark ce soir à Saint-Denis. On guettera autant la sécurité que les dribbles de Mbappé. 6 jours après le fiasco de la Ligue des Champions, notre reporter RTL billet en poche tente d'accéder au Stade de France. Ce sera en quelque sorte le fil rouge de l'émission. Les autres titres de l'actu dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des armes de guerre et des munitions si nombreuses qu'elles n'ont pas pu être toutes comptées. Impressionnantes saisies en Alsace en début de semaine dans les rangs de l'ultra-droite. Un Français tué dans des combats en Ukraine, c'est ce annonce ce soir le ministère français des Affaires étrangères. Et puis après le défilé militaire, une messe en l'honneur de la reine pour le jubilé et quelques sifflets du public à l'entrée de la cathédrale Saint-Paul.
À 18h15, notre invité au 100e jour de guerre en Ukraine, Sergueï Orlov, maire adjoint de Mariupol, la ville martyre détruite désormais aux mains des Russes. Il rêve déjà de la reconstruire. Dans un quart d'heure, la brigade RTL, quel rapport de force à 9 jours des législatives? Et si le camp Macron perdait la majorité absolue? 18h40, on va refaire nos régions avec Marion, l'info près de chez vous. Comme chaque vendredi, 20 minutes de sourire.
Avec ce soir un pastis champion du monde, des vélos de la Discorde au Cap Ferret, des jeux bretons, une recette auvergnate et un village aveyronnais en Argentine.
À 19h15, ils refont la France, Amandine Bégaud et ses camarades de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quel est le menu?
Une émission 100% british, il y aura des Anglais autour de la table. On va parler de la reine, bien sûr, et puis du fiasco du Stade de France.
Allez, le temps tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Tendance pour demain?
Des orages, ça commence ce soir. D'ailleurs, on a une vigilance orange pour 10 départements dans la nuit qui vient, entre les Landes et l'Aveyron, mais ça claque surtout très fort en Bretagne alors qu'il est.
Au bout de la route, il y aura peut-être, qui sait, quelques éclaircies. Environ 1200 km de bouchons en ce moment, avant ce week-end prolongé pour beaucoup, Pierre Collard.
Oui, ça bloque principalement en Ile-de-France. 400 km de bouchons rien qu'en région parisienne. Difficile de tout vous résumer. Globalement, toutes les portes de Paris sont saturées. Comptez une heure au lieu de 15 minutes entre le Petit Clamart et Fresnes, par exemple. Dans le sud, 72 km de difficultés dans la vallée du Rhône. Vous perdez plus d'une heure en direction de la Méditerranée entre Lyon et Orange. Et puis dans l'ouest, vous êtes très nombreux sur l'A6 en direction de Bordeaux. 40 minutes de ralentissement depuis Poitiers.
Merci Pierre, RTL à vos côtés. Radio Guidage tant que ce sera nécessaire.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. RTL, Roland-Garros 2022.
Environ 3 heures de jeu, un combat acharné, demi-finale épique, vraiment, sur le court central en ce moment entre Raphaël Nadal et Alexander Zverev.
Autant dire qu'on préférerait être en tribune ce soir à Roland-Garros plutôt qu'en studio. Vous y êtes, vous, Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol, bonsoir.
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 Mais quel affrontement entre l'Espagnol et l'Allemand?
Vous imaginez, 2h57 de jeu, un set pour le moment seulement remporté par Nadal. 7-6 première manche, 10-8 dans le tie-break, 6-5 pour Zverev dans le deuxième. Nadal au service, Jean-Michel, pour aller chercher de nouveau un tie-break.
Oui, pour aller chercher un tie-break, mais il faut quand même dire que l'Allemand a du mérite. Hein, je ne suis pas un pro Zverev, mais il a vraiment du mérite parce qu'à chaque point gagnant de Nadal, le public l'encourage, se lève, le porte, et l'Espagnol retrouve dans ce public les ressources nécessaires parce que forcément, il ne court plus aussi vite, il ne se dépasse plus aussi bien, il a la même lecture de la balle, mais forcément il n'arrive pas à faire les gestes qu'il faisait il y a encore quelques mois.
Ah, physiquement il commence à piocher Nadal hein, dans ce set, mais voilà, il mène 15-0 sur son service. Allez, il va essayer d'aller chercher une nouvelle fois ce tie break. Il en a perdu très très peu à Roland Garros.
Je vous cache pas la fébrilité d'Isabelle hein.
Et la nôtre,
elle tremble à chaque point de...
Je suis en apnée comme le public.
On est tous très team Nadal, Nadal Jean-Marc, dans la rédaction.
Il a 36 ans aujourd'hui, oui. C'est peut-être son dernier Roland, donc on le profite des légendes.
J'ai le même âge en plus.
On a envie de voir cette 14e finale de Nadal, Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol, qu'on suit cette demi-finale que l'on suit avec vous. On rappelle que la seconde demi-finale opposera Marine Cilic à Casper Ruud.
Et ce sera peut-être très tard ce soir.
Évidemment pas à quelle heure ça va commencer, c'est ça. Autre arène sportive qui attire ce soir les regards, le Stade de France. 6 jours après le naufrage organisationnel de la finale de la Ligue des Champions. Nouveau match ce soir en Ligue des Nations. La France oppose opposé au Danemark. On va revenir dans un instant sur la dimension sportive de la rencontre avec vous. Philippe Sonfourche, bonsoir.
Bonsoir. Mais avant toute chose, d'abord notre fil rouge. Gauthier Delambugard est également avec nous. Bonsoir Gauthier.
Bonsoir.
Alors on va vous suivre aux abords de ce stade jusqu'au coup d'envoi. Vous allez nous raconter les transports, l'accès au stade, la sécurisation, parce que vous êtes parti comme un spectateur lambda, hein, billet en poche pour aller en tribune. Pour l'heure, vous êtes à la sortie du RERD, la même où ça avait coincé avec des scènes de chaos samedi dernier. Comment ça se passe cette fois-ci ?
Eh bien, comme prévu, les forces de l'ordre sont effectivement en nombre avec des policiers sur le quai dès la sortie de la rame. Ensuite, au niveau du parvis, là où je me trouve, il y a des gendarmes mobiles, des CRS, également des agents en civil. Le parvis n'est pas très large. C'est donc ici qu'il est important de gérer au mieux les flux de personnes. Concernant la signalisation, il n'y a pas de panneau qui indique la direction à suivre. Mais c'est assez simple. En fait, il suffit finalement de suivre les hommes en bleu qui sont postés tout au long de l'avenue qui mène au Stade de France. Cette présence policière semble rassurer Olivier, qui arbore fièrement son polo Aller les Bleus.
Là, aujourd'hui, impeccable, nickel, je suis parti de Louvre et donc là, je suis arrivé là directement, pas de retard, parfait.
Je suppose que votre place pour ce match-là, vous l'avez depuis un moment.
Exactement.
Est-ce que de voir ces images la semaine dernière, ça vous a dissuadé ou vous êtes inquiété?
Oui, alors pas dissuadé, on peut dire inquiété, enfin on y pense, oui, forcément, oui. Le fait que les gens se fassent agresser, etc., voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui.
Le stand de bière et de merguez est ouvert à côté de moi. La musique résonne, ambiance donc très calme et joyeuse, vous l'aurez compris pour le moment. Mais il est encore tôt, hein, le match commence à 20h45, donc pas de flux très important de personnes pour le moment. C'est surtout à ce moment-là que l'on verra si le dispositif est vraiment efficace. De mon côté, j'ai mon billet, je vais donc poursuivre mon chemin vers le stade.
Bon, on vous laisse prendre un sandwich merguez, Gauthier, puis on vous retrouve tout au long de RTL Soir. C'est le fil rouge. RTL tente d'accéder à ce match des Bleus.
Coup d'envoi donc 20h45, hein, ce France-Danemark qui marque, Philippe Sonfourche, le début d'une série de 4 matchs en 11 jours, hein, pour les Bleus.
Oui, alors que la saison en club s'est achevée, que certains joueurs cumulent plus de 50 matchs, au compteur 53 par exemple pour Karim Benzema, 52 pour Kylian Mbappé. Il faut relancer la machine pour ce sprint avec déplacement en Croatie et en Autriche dans la foulée de ce soir. C'est lourd, mais c'est déterminant car il n'y aura plus ensuite qu'une seule occasion de se revoir en bleu. 2 matchs en septembre avant la Coupe du Monde en novembre.
Et le Danemark, ça va être un peu notre meilleur compagnon, hein, pour les Bleus jusqu'au Mondial au Qatar.
Oui, c'est le fil rouge, hein, de cette année 2022. 3 confrontations, 2 en Ligue des Nations, 1 en Coupe du Monde. Hugo Lloris, cette semaine, me parlait du côté psychologique du premier rendez-vous ce soir pour marquer les esprits d'entrée. D'où l'équipe type, hein, ce soir alignée par Guy Stéphan avant de devoir mixer avec des remplaçants sur les 3 rencontres à venir.
Et pour le match de ce soir, Philippe, ce sera sans le sélectionneur Didier Deschamps.
Oui, puisqu'il est frappé par le décès de son père, il est au chevet de sa famille. On ne sait pas précisément d'ailleurs quand il sera de retour. C'est une première pour Guy Stéphan, le fidèle adjoint depuis 13 ans, d'abord à Marseille puis en bleu. Didier Deschamps sera lui devant sa télé, au téléphone, pourra éventuellement transmettre 1 ou 2 consignes, mais la confiance est telle entre les deux hommes que Guy Stéphan aura évidemment les clés du camion ce soir.
France, Danemark à suivre en direct ce soir sur RTL, RTL Foot dès 20h, à vivre aussi sur M6. Votre journal se poursuit dans un instant avec une impressionnante saisie en Alsace dans les rangs de l'ultra-droite. Des armes de guerre, des munitions si nombreuses que les gendarmes n'ont pas encore pu toutes les compter. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h, quasiment 10 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Un stock donc digne d'une armurerie, des armes, de la poudre et même des machines pour fabriquer des munitions. Fructueux coup de filet de la gendarmerie au domicile de 4 membres de l'ultra-droite.
4 suspects qui ont été mis en examen après l'opération menée mardi. Yannick Collant, vous êtes le correspondant de RTL en Alsace. La saisie a été telle que 3 jours après, les gendarmes n'ont pas encore fini de faire le compte.
Oui, les gendarmes se doutaient que les suspects pouvaient être armés, mais à ce point-là, c'était inimaginable. C'est une quantité phénoménale d'armes de guerre et de fusils d'assaut qui a été retrouvée, comme l'explique le lieutenant-colonel Yann Vanson.
23 armes, 167 chargeurs, dont 72 chargeurs de Kalachnikov, 35,8 kg de poudre, plus d'une tonne de munitions. Il y a un stade où vous ne pouvez plus les compter, à minima 120 000 munitions.
Ajoutez à cela une mitrailleuse et l'atelier parfait pour fabriquer toutes les munitions.
Des dispositifs de pesée extrêmement précis qui permettent au gramme près de fabriquer la poudre qui convient à la munition. Non, du matériel de professionnel.
Cette saisie confirme les craintes des services de renseignement. Ces membres de l'ultra-droite néo-nazie avaient la capacité de passer à l'action violente, alors que ces 4 suspects sont dans leur vie de tous les jours très discrets, insérés socialement, habitant dans de petits villages alsaciens, a priori insoupçonnables. Ils sont désormais mis en examen pour trafic d'armes de guerre. Leurs ordinateurs ont également été saisis pour voir s'il y avait derrière tout cet arsenal un projet d'attentat.
Yannick Collant en Alsace pour RTL.
RTL. Roland-Garros 2022.
18h11, on retourne à Roland-Garros. Si vous étiez avec nous il y a quelques minutes, demi-finale épique en ce moment entre Nadal et Zverev pour donc une place en finale du tournoi avec un épisode assez dramatique. Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol, on vient de voir Alexander Zverev sortir du court sur une chaise roulante. Qu'est-ce qui s'est passé?
3h06 de jeu, Nadal avait gagné le premier set 7-6. Il servait pour... il venait d'arracher le tie-break 6 partout. Quand Zverev est tombé au sol, Jean-Michel.
Effectivement, sur la balle qu'adresse Nadal, un coup droit assez violent, Zverev se précipite, il se tord la cheville. On pense au départ que c'est simplement effectivement un mauvais geste et qu'il va pouvoir se relever. Eh bien non, il reste au sol, il hurle de douleur. Le médecin arrive, une petite chaise rentre sur le court pour l'évacuer, mais le match n'est pas pour autant terminé hein, pour l'instant. Donc Nadal est toujours sur le court, il change de maillot, il se concentre toujours à nouveau, il est toujours dans son match. Le match pour l'instant n'est pas perdu pour Zverev.
Et Bruguera, l'entraîneur de Zverev, est parti au vestiaire pour voir son joueur, pour voir s'il est capable de reprendre la partie avec un bon strapping.
Bon, dès que vous avez des nouvelles d'Alexander Zverev, vous revenez vers nous. On a vu Nadal se précipiter pour prendre des nouvelles de son adversaire du soir. On va évidemment suivre ça en fil rouge avec vous les amis depuis la porte d'Auteuil. 18h12, on passe au jubilé de la reine maintenant. Day 2, 2000 invités ce matin pour une messe en la cathédrale Saint-Paul à Londres et certains ne sont pas passés inaperçus.
Oui, Morad Jabari, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Londres, bonsoir.
Bonsoir.
Tout le monde apparemment n'était pas forcément bienvenu pour cet office en hommage à la reine qui, elle, est restée au repos aujourd'hui.
Oui, ils étaient très attendus et très vite les sifflets ont pris le dessus sur les applaudissements. Meghan, la comédienne américaine dans une robe blanche et un large chapeau. Harry, l'enfant terrible des Windsor dans un sobre costume noir sont conspués. Au milieu de la foule, Sandra n'a pas vu le coup.
Non, et c'est mieux comme ça. Vous avez entendu, ils ne sont pas vraiment populaires depuis qu'ils ont tourné le dos à la famille royale.
Les huées et les sifflets étaient encore plus intenses à l'arrivée de Boris Johnson, le Premier ministre, en face de l'immense dôme de la cathédrale Saint-Paul. C'est un défilé de chapeaux à plumes et de tenues multicolores perchés sur des escabeaux, les groupies de la famille royale.
J'ai vu William et Kate dans leur voiture. Ils étaient tous très bien habillés. Ils étaient tous fantastiques.
Alors que William et Kate, toujours impeccables, sont applaudis bien plus que le prince Charles. Une cérémonie sans la souveraine, mais ce n'était pas un problème selon Luke Miller, l'archidiacre de Londres. Il était aux côtés de la famille royale.
Malheureusement, elle n'était pas là, mais son esprit était avec nous et le nôtre avec elle. On veut remercier Dieu et évoquer tout ce qu'elle a fait pour nous et on veut la remercier pour ça.
Après la messe, la famille royale a très vite quitté les lieux pour déjeuner juste à côté de la cathédrale. Harry et Meghan n'étaient eux pas conviés.
Morad Jabari à Londres pour RTL.
Au Royaume des Unis, donc on l'a compris. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure, le temps pour demain. Valérie.
Eh ben, des orages, ça commence ce soir avec 10 départements placés en vigilance orange, ça va des Landes jusqu'à l'Aveyron, des orages qui sont en train de passer la barrière pyrénéenne, on en a d'autres un petit peu plus au nord et demain ça va continuer de circuler comme ça du sud vers le nord du pays, tout le monde à peu près y aura droit, sachant qu'on surveillera quand même demain après-midi le Limousin, le centre ou encore la Bourgogne où pourrait y avoir de violents orages. Côté température, une fourchette de 10 à 22 degrés demain matin des Ardennes à la Corse, comptez 19 à 34 demain après-midi avec 26 à Lille, 27 à Paris, 29 degrés pour Toulouse et 32 à Lyon.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et donc comme promis, ce soir, la brigade RTL s'interroge. Quel rapport de force avant les législatives? On vote dans 9 jours. On va poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Vincent de Rosier.
Bonsoir.
Alors dites-nous, on voit dans les sondages en ce moment, la gauche unie, là, la NUPS devant les marcheurs en intention de vote. Et pourtant, dans ces mêmes sondages, on voit le petit camembert à l'Assemblée avec une majorité de sièges pour le camp Macron. Comment vous l'expliquez?
Alors, parce que ces élections, Julien, c'est comme un championnat du monde d'athlétisme. Vous pouvez être le plus rapide en demi-finale et vous effondrer en finale. Les législatives, c'est pareil. Peu importe le score que vous faites au premier tour, l'important, c'est de se qualifier en réalisant au moins 12,5% des inscrits. Et après, le second tour, c'est la finale, la vraie. Et pour gagner, il faut mobiliser plus que l'adversaire et surtout être moins repoussoir que l'autre candidat. Et là, les sondages tournent en faveur de la majorité.
Alors, est-ce qu'ils peuvent perdre la majorité absolue? les marcheurs?
Peu probable, déjà parce qu'ils ont beaucoup de députés sortants, parce que la faible participation annoncée leur est favorable. Aussi, les personnes aisées ou âgées qui se mobilisent votent plutôt pour Emmanuel Macron. Mais attention, on est loin de l'euphorie de 2017. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron aura une majorité avec ou sans Horizon, le parti d'Édouard Philippe? Ça l'obligerait à des concessions, voire à une forme de cohabitation.
Une opposition très forte, ça changerait quoi?
Des alliances, des concessions, là aussi, pour pouvoir voter les lois. La majorité serait obligée de toper avec les Républicains, le PS ou les écolos, pas évident. Et puis avec un groupe d'opposition puissant, la NUP pourrait déposer plus de motions de censure, elle aurait plus de poids dans les médias, et surtout elle prendrait la présidence de commission comme l'incontournable commission des lois à l'Assemblée.
Mélenchon Premier ministre, c'est impossible?
N'allez pas parier votre livret A dessus, pour ça il faudrait que la gauche remporte au moins 289 sièges. La force de Jean-Luc Mélenchon, c'est son score à la présidentielle. Son point faible, c'est qu'il va avoir du mal à mobiliser son électorat face à Marine Le Pen, comme il avait réussi à le faire pour la présidentielle.
Le RN, justement, ils peuvent viser combien de sièges?
Alors, il rêve d'une centaine de sièges, ça sera difficile. Mais si le RN obtient au moins 15 sièges, ce qui va arriver, il aura un groupe à l'Assemblée nationale. C'est arrivé une seule fois dans la 5e République et encore, le mode de scrutin a été différent. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera un événement politique.
La Brigade RTL avec Vincent Derosier, donc à 9 jours maintenant des élections législatives. Juste en quelques mots, je vous donne des nouvelles d'Alexander Zverev, l'Allemand, puisque vous le savez que la demi-finale se déroule en ce moment à Roland-Garros face à Nadal. 7-6 pour Nadal dans la première manche. 6-6 tie-break à suivre normalement dans cette demi-finale. Mais Zverev est sorti sur blessure. Il s'est foulé la cheville. Il est sorti sur une chaise roulante, si vous nous rejoignez à l'instant. Il est au vestiaire depuis maintenant 5 minutes et on ne sait pas s'il va pouvoir, oui ou non, reprendre cette rencontre épique. 3 heures de jeu déjà. Courte pause et ensuite nous irons en Ukraine rejoindre notre invité. 100e jour de guerre là-bas. Sergueï Orlov est le maire adjoint de Mariupol, la ville martyr tombée aux mains des Russes, et il rêve déjà de la reconstruire. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL Roland-Garros 2022.
Juste avant, puisque vous écoutez RTL Soir depuis maintenant 18h, juste avant de rejoindre notre invité en Ukraine, comme promis, à 18h21, on refait un petit tour porte d'Auteuil parce que ça y est, on a des nouvelles, malheureusement, j'ai envie de dire, d'Alexander Zverev, demi-finale. Nadal Zverev, on la suivait depuis le début de l'après-midi sur RTL, qui s'arrête bien plus tôt que prévu, Isabelle Langer.
Oui, il est revenu sur le court avec des béquilles, Alexander Zverev. Il s'est blessé alors que Nadal venait d'égaliser à 6 partout, Jean-Michel, et Nadal se qualifie donc pour sa 14e victoire à Roland-Garros.
Il est désolé en ce moment même au micro de Mats Wilander. Bien sûr, Zverev a combattu à la hauteur de ce champion qui est Rafael Nadal. Il a salué d'ailleurs avec ses béquilles le public. Il a été largement applaudi et donc Rafa se retrouve en finale, non pas malgré lui, mais compte tenu des circonstances.
Bon, image difficile et donc on suivra la prochaine demi. Cilic face à Ruud tout à l'heure avec vous, Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
Et on débriefera avec Henri Lecomte à 19h.
Évidemment.
Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Et donc on en vient maintenant à 18h22 à ce chiffre si douloureux. 100 jours de guerre déjà en Ukraine. Les Russes contrôlent désormais 20% du pays. Combat d'une violence inouïe dans l'Est, dans le Sud. La ville martyre de Mariupol reste un symbole. Ville bombardée, affamée, privée de tout pendant des semaines. Elle est finalement tombée aux mains de Poutine. Au début du mois, ce soir, le maire adjoint de Mariupol, maire en exil, est notre invité. Good evening, Sergueï Orlov.
Good evening.
Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment même à Mariupol, puisque votre ville est désormais sous contrôle russe?
Vous l'avez mentionné, toute la ville est occupée. Et la vie des habitants est très dure. Ils n'ont aucun espoir, ils ne peuvent pas se projeter vers l'avenir. L'armée russe est incapable de restaurer les infrastructures. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'égout, pas de gaz, pas de médicaments, pas de nourriture. Il n'y a plus de travail. Il n'y a que 2 emplois en fait en ce moment à Mariupol. Nettoyer les rues et nettoyer les ruines. Des ruines où il n'y a que des corps et des cadavres.
Combien d'habitants vivent encore sur place à Mariupol?
Nous estimons qu'il y a encore dans la ville entre 150 et 160 000 personnes et 30 000 dans les villages occupés aux alentours.
Et est-ce que vous savez combien de personnes ont été tuées pendant le siège de la ville?
C'est un chiffre atroce. Nous estimons que 25 à 40 000 habitants ont été tués dans les bombardements.
Alors, on a vu ces derniers jours que les Russes avaient notamment pris le contrôle du port de Mariupol et ils envoient de l'acier ukrainien chez eux. Est-ce que vous en avez la confirmation?
Oui, ils l'envoient, ils le volent. C'était du métal ukrainien prêt à être exporté vers le monde, l'Europe, les États-Unis. Ils ont trouvé ces produits précieux dans le port et ils sont en train de voler ce métal.
Sergueï Orlov, est-ce que vous pensez que vous pourrez revenir un jour dans une Mariupol ukrainienne ?
On ne le pense pas, on en est certain. Certain de revenir en tant que maire ukrainien à Mariupol. Nous espérons que ce sera possible de revenir avant la fin de l'année. On discute beaucoup avec nos généraux, nos soldats. Ils sont absolument prêts à combattre pour libérer Mariupol. Mais tous nous disent qu'on manque encore d'armes lourdes, artillerie, système de lancement de missiles, chars. Les pays alliés, la France, ont commencé à nous fournir en artillerie, mais c'est encore insuffisant pour libérer la ville. Donc on attend et on demande à ce que cette aide se poursuive.
Est-ce que ça veut dire que vous commencez déjà avec le reste de l'équipe municipale à préparer la reconstruction de Mariupol?
C'est mon rêve et mon vœu le plus cher, c'est de reconstruire Mariupol. C'est notre rêve et on commence à échanger avec les maires des grandes villes européennes. On a discuté avec la maire de Paris. On commence à rêver et envisager à quoi ressemblera la future Mariupol. Parce qu'aujourd'hui, la ville est totalement détruite. 90% de la ville est endommagée et 45% totalement détruite.
Et comment vous gardez le lien avec les réfugiés de Mariupol? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont fui votre ville et qui sont maintenant éparpillées en Ukraine ou même en Europe.
C'est notre devoir, notre responsabilité, notre travail de leur venir en aide. On a lancé un projet baptisé « Je suis Mariupol ». On a pris des infos dans toutes les villes d'Ukraine où la plupart des habitants s'étaient réfugiés et nous y avons ouvert des centres « Je suis Mariupol ». On s'y sent comme à Mariupol. Les réfugiés y reçoivent l'aide de base, de la nourriture, des médicaments, une aide administrative, des lieux de jeu aussi pour les enfants. Nous avons ouvert 4 centres dans le pays. Nous rêvons d'en ouvrir 8 ou 10. C'est pourquoi nous en appelons à l'aide internationale. Et s'il vous plaît, partagez cette info et l'adresse de notre site mhelp.org.ua.
Sergueï Orlov, est-ce que vous avez des nouvelles des combattants d'Azovstal, ces soldats qui ont résisté des semaines dans les sous-sols de cette usine de Mariupol, les ultimes résistants qui sont désormais prisonniers des Russes?
C'est une question sensible. Malheureusement, je ne peux pas faire de commentaires. C'est une question de sécurité nationale. Mais je crois comprendre que la solution serait un échange des deux côtés. Et je ne peux qu'espérer, prier pour que cela se produise.
Alors, il y a eu Mariupol et puis il y a désormais Severodonetsk. C'est une ville dans l'est du pays, la nouvelle Mariupol en quelque sorte, Sergueï Orlov. Là aussi bombardée, là aussi affamée par les Russes, cette métropole est en train de vivre ce que vous avez vécu il y a quelques semaines.
Oui, c'est vrai. Et la stratégie de la Russie employée à Mariupol se répète à Severodonetsk. Appelons-la barbarie. La seule chose qu'ils savent faire, en fait, c'est détruire des villes, des infrastructures. C'est pourquoi il est important de supporter l'Ukraine et les Ukrainiens dans cette guerre contre ces barbares russes.
Merci Sergueï Orlov d'avoir été ce soir notre invité depuis l'Ukraine. Vous le maire adjoint de Mariupol, la ville martyre au 100e jour de guerre dans votre pays. Allez, RTL Soir va se prolonger dans un instant avec tout autre chose. Il y aura vos dessous de l'actu, les dessous du match France-Danemark. On va retourner au Stade de France et le retour du foot là-bas, 6 jours après le fiasco. Et notre reporter tente d'accéder aux tribunes. C'est notre fil rouge. Et puis laissez-vous tenter dernière avec une superbe découverte musicale. Restez à l'écoute, à tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL Soir à vos côtés, 18h32.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Vous nous rejoignez si vous nous écoutez dans les bouchons. Marion Calais vous rappelle maintenant les trois grands titres de l'actu du soir.
Le cadeau amer pour le 36e anniversaire de Rafael Nadal, l'Espagnol qualifié pour la finale de Roland-Garros, mais après abandon de son adversaire Alexander Zverev, blessé au pied, alors que les deux hommes bataillaient depuis plus de 3 heures et n'en étaient qu'au deuxième set. C'est une information qu'RTL vous révélait cet après-midi, l'arrestation d'un jeune homme, gare Montparnasse à Paris, avec deux armes automatiques dans son sac. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h. Et puis les bouchons, justement, départ nombreux en ce week-end prolongé. À l'heure actuelle, un peu plus d'un millier de kilomètres dans toute la France.
Bouchons et mauvais temps, sympa ce week-end prolongé, Valérie Quintin.
On a pas mal d'orages déjà ce soir. Alors certains sont déjà en train de partir vers le nord du pays. Et puis la grosse salve orageuse qui nous intéresse ce soir, donc qui donne 10 départements en vigilance orange, ça va des Landes jusqu'à l'Aveyron. Cette masse orageuse est en train de passer la barrière pyrénéenne. Ça va continuer comme ça, du sud vers le nord, toute la journée de demain, en épargnant le pourtour méditerranéen. À chaque fois, c'est quand même dans le sud-ouest que les orages seront les plus violents. Les températures vont rester élevées demain, 19 à 34 degrés de la Normandie à la Corse dans l'après-midi, 23 à Quimper, 27 à Paris, 28 à Colmar, 30 degrés à Chambéry, 33 à Cavaillon.
Merci Valérie.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et les dessous du retour du foot au Stade de France. France-Danemark ce soir à Saint-Denis, 6 jours après le chaos, exactement au même endroit lors de la finale de la Ligue des Champions. C'est notre fil rouge ce soir. RTL tente d'accéder au stade avec un billet en poche comme n'importe quel spectateur. Rebonsoir Gauthier Delambugard.
Bonsoir Julien.
Vous en êtes où? On a la sensation qu'on ne va pas revivre les scènes hallucinantes du week-end dernier.
Absolument. Et tout à l'heure, je vous parlais de la signalisation qui n'était pas très efficace. Ouais. C'était avant de tomber sur cet immense panneau, bien sûr, avec écrit Stade de France en très gros et ces immenses flèches. Là, je suis au point de préfiltrage, là où ça avait coincé la semaine dernière, où on avait vu ces scènes de chaos, ce point de préfiltrage qui est juste avant, finalement, ce tunnel qui passe sous l'autoroute. Eh bien, là, tout se passe bien. Je me suis rendu il y a quelques minutes. J'ai donc levé les bras. On a fouillé mes poches, fouillé mon sac. J'ai pu garder ma bouteille d'eau en plastique, seulement les bouteilles d'eau en verre qui doivent être jetées. J'ai passé finalement ce point de préfiltrage en quelques secondes. Tout se passe très bien, les stadiers sont très efficaces pour l'instant. Il y a peu d'affluence, mais il n'y a rien à signaler, aucun incident pour le moment.
Merci Gauthier, on va vous retrouver tout au long de l'émission. C'est le fil rouge ce soir, RTL qui tente d'accéder au Stade de France. France-Danemark à vivre bien entendu sur RTL et M6 ce soir.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant, comme chaque soir à 7h06. C'est le petit rendez-vous où on vous offre ces cadeaux, des idées de sortie, des idées de CD à écouter, des idées de films à aller voir. On va parler musique justement avec une découverte. Et on adore quand vous nous faites découvrir des artistes. Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Elle s'appelle Margot de Fouchier. Well, you can't tell.
Comment j'ai connu Margot de Fouchier?
Alors, dites-nous tout.
D'abord, je l'ai découverte en tant que photographe. Je suivais son travail avec intérêt. Et puis un jour, j'ai compris qu'elle était aussi auteure, compositrice et interprète.
Et qu'elle chante très bien, visiblement.
Qu'elle chantait très bien, qu'elle avait déjà sorti un premier album il y a quelques années. Et que là, elle s'était décidée à en sortir un second, Disco Nova. Un album de reprise de tube disco, mais à la sauce bossa nova. Si on pouvait baisser un tout petit peu la lumière dans le studio et nous apporter un cocktail.
Sans alcool, bien entendu.
Évidemment, sans alcool.
Margot de Fouchier, donc visiblement, elle fait partie de ces artistes Bah, qui sont capables de tout faire, qui sont un peu multitalents, c'est ça?
Exactement, multitalent, c'est le mot, multicasquette. Elle a un œil, elle a un goût très sûr pour la mode puisqu'elle est aussi directrice artistique, elle a une jolie voix légèrement cassée et il paraît même qu'un livre va sortir bientôt.
Qui sont ces gens avec tous ces talents?
Je ne sais pas.
Ouais,
on n'a pas tous eu la même fée au-dessus du berceau, c'est ça. Bon, en attendant, c'est aujourd'hui qu'est sorti Disco Nova, son deuxième album, et Margot de Fouchier mérite qu'on tende un peu l'oreille. It's fun to stay at the YMCA.
C'est dans les bacs, courez découvrir Margot de Fouchier. Merci beaucoup pour cette découverte, Julien Molcou. Un petit peu de bossa nova, c'est le meilleur remède contre la morosité avant le week-end. Margot de Fouchier, retenez son nom. Merci Julia. Allez, on va ranger le disque de Bossa Nova, on va sortir les Bignoux, les chants corses, les chants basques, et on va refaire nos régions dans un instant, comme chaque vendredi soir, sur RTL avec nos correspondants un petit peu partout en France. C'est Marion Calais. On vous propose au menu ce soir du pastis champion du monde, des vélos de la Discorde au Cap Ferret, des jeux bretons, une recette auvergnate et même un village aveyronnais en Argentine.
Eh oui.
À tout de suite, hasta luego.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.